à ciel ouvert sur RVR avec Jean-François Matray, Gervais Morel, Jean-Luc Regret, Christian Besson, Jean-Pierre Doroire. Une émission qui permet ensemble d'évoquer l'actualité, commentaires, points de vue, suggestions. À ciel ouvert, une émission bimensuelle sur RVR pour faire réfléchir le citoyen.
Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet particulièrement austère, mais qui hélas est d'actualité et qui risque de l'être pendant un certain temps, à savoir la notion de rigueur. Puisque c'est un terme dont on nous rabat les oreilles et qui a été jusqu'à présent occulté soigneusement dans les discours politiques et qui, comme le mot tabou qui sémoigne la terreur, comme dans la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Bon, cette introduction un petit peu détournée par la littérature, c'est une occasion de poser le problème justement de la crise, les Européens malades de la crise, et la rigueur est-elle un remède miracle ou ce remède est-il pire que le mal? Enfin, voilà des questions qu'il conviendra peut-être de traiter au cours de l'émission et auxquelles participeront donc les intervenants habituels, à savoir Jean-Pierre Doroire, président de la station RVR, Jean-Luc Regret, régleur dans l'imprimerie, Christian Besson, conseiller pédagogique dans l'enseignement maternel et primaire, et bien entendu, les intervenants extérieurs que nous aurons en communication téléphonique, Patrice Vercher, député de la 8e circonscription du Rhône, Pierre Brivet, chef d'entreprise à Rouen, et Sébastien Poncet, commercial dans la pharmaceutique. Voilà le principe de l'émission. L'idée, c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer sur les sujets que nous allons traiter, avec la possibilité d'intervenir quand on veut, en ce qui concerne ceux qui sont à l'extérieur. Alors, pour situer un petit peu ce problème concernant la rigueur, il convient peut-être par le détour de la littérature de faire une petite allusion à la situation. Dans la fable de La Fontaine, qui n'est pas un politologue distingué, mais qui finalement apporte autant d'éléments que d'autres spécialistes, on laissait entendre que, à propos des animaux malades de la peste, dans la fable du même nom, tous les animaux, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Donc c'est ce qui risque de se produire par rapport au plan que l'on nous destine d'une façon ou d'une autre pour résoudre le problème de la crise. Alors, c'est à cette question que nous allons vous demander de répondre et bien entendu de nous apporter, si ce n'est des solutions, au moins des éléments d'information sur les enjeux de la politique qui sera menée à ce sujet.
Je veux bien débuter.
Patrice Vercher.
Je crois qu'il y a eu depuis 2008 deux crises. Il y a eu une crise bancaire en 2008 et aujourd'hui le monde est confronté à une crise des dettes souveraines. En France, comme partout d'ailleurs en Europe et même aux États-Unis, la réduction de la dette publique s'impose comme une priorité absolue. Qu'est-ce que la dette? Tout simplement, on se rend compte que notre dette en France, en tout cas, a deux composantes. La première composante de notre dette, et c'est la plus importante qui la compose, c'est le fruit de 25 années, droite et gauche confondues, de déficit de nos budgets. Chaque année, du fait de la non-maîtrise de nos budgets de fonctionnement, on a eu des déficits qui se sont cumulés, qui ont engendré une dette importante. C'est vrai que depuis 2006, avec la RGPP, les budgets de fonctionnement sont beaucoup plus tenus qu'avant, mais il y a encore des efforts à faire. Et puis, il y a une deuxième composante de notre dette qui est beaucoup plus récente, celle-ci, c'est la dette due à la crise, parce que elle résulte tout simplement de la baisse mécanique des recettes fiscales. Sous l'effet de la crise, on a eu moins de recettes, et donc on a engendré des déficits supplémentaires. Et puis il y a eu également le plan de relance de l'économie entre 2009 et 2010, qui a engendré une dette supplémentaire. Je crois que...
Importante dette,
ben oui, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où nos créanciers et les investisseurs n'ont plus confiance ou ont beaucoup moins confiance en l'Europe, à la zone euro, et on doit y répondre. On doit répondre à cette perte de confiance des investisseurs.
Pierre Brivet, peut-être. Pourquoi la crise? Comment pour lui vient ce mot?
La crise, pour moi, est bien simple. C'est que on vit tous au-dessus de nos moyens. Que ce soit les États, que ce soit les particuliers, que ce soit les collectivités locales, on vit en s'endettant de plus en plus. Et on s'endette maintenant aujourd'hui pour rembourser les intérêts des dettes qu'on a contractées les années précédentes. Quoi qu'on en dise, le niveau de vie des particuliers a énormément augmenté parce que il y a de plus en plus de besoins nouveaux qui sont assouvis et qui grèvent les budgets. Donc les particuliers s'endettent aussi. On voit toute l'augmentation des dossiers de surendettement à la Banque de France qui est colossale. C'est très simple, hein, c'est le bon sens paysan, hein. C'est qu'on vit tous au-dessus de nos moyens. Voilà, les États vivent au-dessus de leurs moyens en le budgétant, en le prévoyant, en budgétant un déficit budgétaire qui devient un déficit budgétaire primaire, c'est-à-dire qu'on peut même pas rembourser les intérêts de la dette passée sans s'endetter. C'est un cercle, ce que j'appelle moi le contraire d'un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on va essayer de redresser la situation, plus on va s'enfoncer, donc moins on va générer de business et de valeur ajoutée, donc moins on va générer de revenus. On n'a plus qu'à espérer qu'on ne va pas s'écraser tous en même temps. Voilà.
Sébastien Poncet, vous qui voyagez à travers le monde par votre profession de commercial, pourquoi la crise ?
Plusieurs facteurs. Les facteurs qui ont été évoqués sont bien entendu évidents. On dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne, et ça c'est effectivement du bon sens paysan. Et à un moment donné, il faut savoir aussi serrer la ceinture pour parfois réfréner quelques besoins qui sont plutôt créés par le marketing et la publicité en grande conso. Donc ça c'est une première chose. Mais on oublie aussi les facteurs extérieurs et qui sont aussi plus propres à la France. Vous avez quand même la Chine et l'Inde qui se sont réveillés. Donc moi je travaille dans le secteur de la chimie où nous fabriquons des ingrédients pour la pharmacie, pour fabriquer des médicaments, ainsi que des ingrédients pour la cosmétique. Et on constate aujourd'hui que on perd de plus en plus de parts de marché face à l'Inde et la Chine. Dans ces pertes de parts de marché, il y a une perte de parts de marché qui est due déjà à une volonté de faire partie du monde des Chinois et des Indiens qui sont très voraces de ce côté-là. Donc ça, c'est une première chose. Il y a un peu de dumping. En chimie, nous assistons à un dumping environnemental, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine pollution qui est générée dans ces pays-là. Je crois que Pékin a connu un pic de pollution encore ce week-end assez catastrophique. On assiste à un dumping environnemental, parfois social, qui n'aide pas. Et puis surtout, il y a un autre facteur qui est plus propre à la France, c'est qu'on ne travaille plus assez en France. Les 35 heures ont complètement désorganisé les entreprises. C'est pas tant la quantité de travail, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans des entreprises manufacturières, comme c'est le cas pour moi, vous n'arrivez plus à avoir une bonne réactivité parce que le lundi, le mercredi, les vendredis, vous avez toujours des gens qui sont en RTT. Ça fait que quand vous voulez organiser une réunion de crise, ça vous prend 3-4 semaines. Allez expliquer ça à des clients asiatiques ou des clients américains que pour répondre à une réclamation ou une simple question, il vous faut 4 semaines parce que une partie de votre personnel est en permanence en RTT. C'est difficilement explicable. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui, les entreprises françaises en tout cas, se retrouvent en concurrence avec des pays qui travaillent plus. Et donc, nos clients étrangers leur font plus confiance. Et nous perdons des parts de marché régulièrement, en particulier à cause de ça.
Sébastien Poncet, juste en un mot, vous qui voyagez beaucoup, puisque dernièrement, je sais que vous étiez à Séoul et puis vous allez souvent aux US. Comment est vue la crise européenne ?
Midi, je mangeais avec des collègues américains. Donc, je leur ai posé la question. Eux ont quand même le même problème, puisque les États-Unis sont extrêmement endettés. La différence, c'est qu'aux États-Unis, ils sont un seul pays. Ils ont une seule tête qui décide, et donc ils ont décidé de faire tourner la planche à billets. Le problème qu'on a en Europe, c'est que l'Europe n'a jamais été au bout de la construction européenne. On a créé des contraintes liées à l'Europe, mais on n'a pas eu les bénéfices de l'Europe. Et tant qu'on n'aura pas une Europe fédérale, on aura du mal à avancer dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, un des problèmes, c'est que l'Europe ne peut pas dévaluer parce que la Banque centrale ne peut pas imprimer de planche à billets. Donc on a une concurrence quelque part déloyale avec des pays comme le Japon ou les États-Unis qui font tourner la planche à billets, donc qui dévaluent leur monnaie. Ce qui fait que pour des sociétés, je suis en charge d'un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, et on exporte à plus de 70% à l'international. Le problème auquel on fait face, c'est que l'euro est à 1,35. Ça nous pénalise énormément pour les exportations. Donc quand vous avez des pays comme le Japon ou les États-Unis qui font tourner la planche à billets, qui dévaluent leur monnaie, que vous êtes en zone euro et que vous-même êtes pénalisé par votre monnaie parce que la Banque centrale, de par l'organisation structurelle de l'Europe, ne peut pas dévaluer la monnaie, vous êtes quelque part face à une concurrence déloyale et vous avez plus de mal à réagir.
Christian Besson.
Monsieur Poncet, j'ai une question à vous poser, justement, c'est sur la définition que vous avez de l'Europe fédérale, parce que l'Europe fédérale, on ne sait pas bien ce que c'est. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. L'Europe fédérale, c'est quoi ?
Je me cadre par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire que l'Europe fédérale, vous avez un président de l'Europe qui va gérer la politique extérieure de l'Europe avec une seule voix. Et ensuite, ça n'empêche pas chaque État d'avoir sa propre politique fiscale, sa propre politique interne. Quand vous regardez aux États-Unis, l'impôt sociétés est différent d'un État à l'autre. Les lois sont différentes d'un État à l'autre aux États-Unis. Donc ça ne vous empêche pas de garder une souveraineté relativement importante. Par contre, au niveau international, les États-Unis ne parlent que d'une seule voix avec Barack Obama et son délégué aux relations extérieures. Le problème de l'Europe, c'est qu'en fait, on a gardé notre indépendance, mais on n'a pas de concertation au niveau communication extérieure, qui fait que l'Allemagne parle d'un côté, la Pologne parle dans un autre sens, l'Espagne dans un autre, et les autres États comme les États-Unis savent très bien jouer sur nos divisions, qui fait qu'on n'est pas très crédible vis-à-vis des autres partenaires extérieurs.
Vous êtes sur RVR dans l'émission À ciel ouvert. Le sujet, la crise. Les invités, Patrice Vercher, Pierre Brivet, Sébastien Ponce. Une question de Jean-François Matray.
On vient de faire un constat d'échec. Et j'ai entendu que finalement ce constat d'échec était partagé apparemment par les hommes politiques, que ce soit de droite ou de gauche, puisqu'on a laissé entendre que la crise ne date pas d'hier, mais depuis un certain temps, et que finalement, quels que soient les dirigeants au pouvoir, ils doivent assumer une certaine part de responsabilité. Le gros problème, c'est que la rigueur comme remède est un élément qui apparaît maintenant, en tenant compte de la conjoncture, comme nécessaire et obligatoire. Le problème, c'est que si gouverner, c'est prévoir, c'est plus en termes de prévention, justement, qu'on aurait dû anticiper les événements et non pas attendre que la crise nous tombe dessus d'une façon particulièrement dramatique pour réagir.
Patrice Vercher, député du Rhône.
Pour tout vous dire, il y avait, lors du traité de Maastricht, un critère qui était les budgets inférieurs à 3% de déficit. Ce critère a été plus de 60 fois foulé par les États. La France n'a pas tenu compte au moins 15-16 fois, l'Allemagne 16-17 fois, je ne parle pas de l'Italie. Donc il y avait dans les critères de Maastricht, en prévision de la création de l'euro, un certain nombre de contraintes qui devaient empêcher les États d'engendrer des dettes supplémentaires, en tout cas d'avoir des déficits au-delà de 3%. Malheureusement, la gouvernance de l'Europe, et là je rejoins un de vos interlocuteurs, Monsieur Poncet, je crois, fait que, en fin de compte, personne n'a été sanctionné pour ceux qui ont dépassé ces 3% de déficit, et ça dure depuis des années et des années. Mais je constate néanmoins, alors, il n'est jamais trop tard, mais les décisions récentes du sommet européen entre le président de la République et Angela Merkel va vers un gouvernement économique de la zone euro. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une réunion ou deux réunions sur l'économie par an, il a été décidé qu'il y ait une réunion mensuelle avec un vrai gouvernement économique de la zone euro. Et je crois que c'est un pas supplémentaire vers quelque chose de plus cohérent au niveau de la zone euro, ce que l'on n'avait pas aujourd'hui. Et c'est vrai que la crise nous fait revoir l'ensemble de nos positions. En tout cas, on essaye de trouver une meilleure gouvernance et surtout le fait d'être précisément à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui.
Bien, Patrice Vercher. Maintenant, une question de Jean-Luc Regret, puis on retournera vers Pierre Brivet.
Moi, je voudrais rebondir sur les propos de Monsieur Sébastien Poncet concernant les 35 heures. On peut se rendre compte, par l'intermédiaire des médias, que la droite, le gouvernement, diabolise complètement les 35 heures, les rendant responsables de tous les maux. Là, j'ai bien entendu les arguments de Monsieur Poncet, mais ce que j'ai noté, c'est que les 35 heures ne fonctionnent pas toujours avec le système de RTT. Moi, en ce qui me concerne, pour parler de ce qui se passe dans mon entreprise, les heures supplémentaires que je travaille au-delà de la 35e heure sont payées en heures supplémentaires. Donc, on gagne 25% de plus par heure. L'abolition des 35 heures me ferait perdre 5 heures à 25%. Donc ça serait une perte de pouvoir d'achat assez importante sur pas mal de salariés concernés par ce système des 35 heures. Alors, ce qui est intéressant, il y a des choses gouvernementales qui ont été faites qui peuvent très bien se conjuguer avec les 35 heures, telles que la défiscalisation des heures. Ça nous donne un pouvoir d'achat un petit peu plus important. Pourquoi ne pourrait-on pas conserver les 35 heures et la défiscalisation, ce qui contenterait une grande partie de salariés.
Patrice, juste un mot pour répondre, parce que comme vous êtes député, c'est-à-dire vous votez des lois, à vous de répondre, et puis on ira vers Pierre Brivet, qui lui est chef d'entreprise.
Bah, je crois crois que les 35 heures, c'est vrai qu'on n'a pas eu le courage de les supprimer, parce que c'est vrai que c'est très compliqué au niveau des salariés, même au niveau des entreprises qui ont négocié pour certaines d'entre elles de nombreuses années avant d'aboutir.
Pour être clair, Patrice, vous êtes contre les 35 heures.
Oui. Oui, mais le souci que l'on a aujourd'hui, donc on a essayé par les heures supplémentaires, à un moment où on nous annonçait de la croissance, de créer ce système des heures supplémentaires défiscalisées, qui a donné un pouvoir d'achat quand même à plusieurs millions de Français qui travaillaient. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, le problème, c'est le coût du travail. Aujourd'hui, nous avons, depuis la guerre, un financement de notre protection sociale, c'est-à-dire la famille, la retraite, un peu moins la santé, mais le chômage, financé uniquement par les charges patronales et les charges salariales. Ce qui fait qu'on a des charges patronales trop importantes qui engendrent un coût supplémentaire, donc une compétitivité moindre, et un salaire brut qui est dans les plus élevés d'Europe, mais quand on arrive au salaire net, on est dans les médians. Donc on a un vrai souci, et l'enjeu de demain, c'est bien une réforme de cette fiscalité. Tout à l'heure, je crois que c'est M. Poncet qui parlait du dumping social et environnemental. Pour cela, je pense qu'il faut répondre par une contribution sociale et environnementale à mettre en place, à travailler bien sûr, au niveau français.
Autour de Pierre Brevet, chef d'entreprise de plus de 100 salariés en 5 unités. Et puis tout de suite après, une question de Christian Besson.
Donc au niveau des 35 heures, il y a deux problèmes qui sont différents.
Je dis bien, vous êtes chef d'entreprise, hein, c'est important.
Je suis chef d'entreprise, d'entreprise au pluriel, et donc je travaille sur plusieurs régions, alors je travaille pas à l'international. Il y a deux problèmes des 35 heures. Il y a le problème des 35 heures, c'est-à-dire qu'on a diminué le temps de travail sans augmenter la productivité en proportion. Et moi, je voyage pas mal à l'étranger, alors pour le loisir, pour le vélo, mais pas pour le travail. Mais quand je vais en Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne, pour des pays qui sont quand même nos concurrents directs et qui sont proches, non seulement le vendredi, les gens travaillent, mais le samedi, il y a des travaux sur les routes, voire parfois même le dimanche. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que la quantité de travail produite, donc la valeur ajoutée du pays, est bien supérieure à celle de la France. C'est-à-dire que les 35... On travaille que 35 heures, mais si on travaillait 40 heures ou 45 ou 39, on générerait plus de valeur ajoutée, donc plus de production pour le pays. Et ça, on ne le génère pas. Donc, les autres en produisent plus que nous. Donc, il y a déjà un premier écart. Et le deuxième problème que les gens ne disent pas ou sous-entendent, c'est le problème des 35 heures payées 39. Et c'est ce qui s'est produit, puisque moi, j'ai négocié, dans le cadre des entreprises du bâtiment, du syndicat du bâtiment à laquelle j'appartiens, les 35 heures payées 39. Et donc, ça augmente le coût du travail d'une manière impressionnante, phénoménale, par rapport au coût du travail de nos voisins, et on parle pas, bien sûr, de l'Inde et de la Chine dont on a parlé tout à l'heure. Et ce surcoût a été compensé partiellement, en ordre de grandeur, à peu près la moitié, par des exonérations de charges sociales sur les bas salaires. Donc ça veut dire que l'État, à la grosse louche, en ordre de grandeur, a payé la moitié des 35 heures pour les entreprises privées, et les entreprises privées, donc fatalement les clients et les consommateurs, ont payé la moitié des 35 heures. Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'il est scandaleux de donner des exonérations de charges sociales aux entreprises, parce que c'est pas normal, on leur fait des cadeaux. Faut pas oublier que c'est les entreprises qui ont fait cadeau à l'État et à leurs salariés de la moitié du coût des 35 heures. Et donc tout ça, ça augmente, comme l'a dit Patrice Verchère, le coût du travail. Donc on n'a plus d'industrie, donc on a un dumping social, conditions de travail, écologiques, etc. Et on retombe dans le cercle vicieux que j'ai dit tout à l'heure. Plus on y va, plus on s'enfonce.
Vous êtes toujours sur RVR, entre Loire et Rhône. Émission à ciel ouvert, avec ses adhérents au nombre de 4. Et aujourd'hui, 3 invités, Patrice Verchère, Pierre Brevet, Sébastien Poncet, pour évoquer la crise économique.
Moi, j'avais une question plus générale à poser à Monsieur Verchère.
Christian Besson.
On a tous compris qu'il va falloir faire des économies et trouver des recettes. Alors, on va commencer par recettes. François Bayrou, avant-hier, a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de cet axe nouveau ?
C'est pas un axe nouveau. Hein,
disons, c'est pas un axe nouveau. J'ai écouté Madame Morano ce matin, mais quand même.
1946. Non, c'est clair qu'il faut. Si on peut privilégier l'achat français, vous savez, c'est un peu comme pour les collectivités locales. Si on peut aider les entreprises sur la commande publique, les entreprises locales à obtenir des marchés, c'est très bien. Je pense que c'est très bien d'avoir ce côté patriotique. La difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que le Made in France. Et là, il y a eu un gros travail. Il y a eu même un rapport récent par un de mes collègues où le Made in France, c'est plus compliqué que ça, parce que aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas suffisamment rigoureux sur le Made in France. C'est-à-dire que vous pensez parfois acheter français, or trois quarts de ce que vous achetez, en fait, n'est pas français, il n'y a qu'un quart.
Alors, c'est
nous aussi de cette idée.
Est-ce que c'est une bonne piste, cependant, de...
C'est une piste parmi d'autres, hein. Moi, je préfère, enfin, c'est pas une mauvaise piste, hein, mais c'est pas la seule piste. Si ce n'était que l'acheter français pour s'en sortir, ça serait. Mais c'est vrai que si les gens, en achetant français, aident davantage, c'est clair, l'économie française. Mais c'est pas la seule piste. Mais c'est une piste qui a le mérite d'exister, d'avoir été dite. C'est un rappel.
Alors, parlons du terme qui fâche, économie. Il va falloir faire des économies. Pour vous, quels sont les secteurs où on peut faire des économies en France?
Tout simplement, une économie, c'est pas sur l'investissement, parce que si on fait trop d'économies sur l'investissement, il arrive un moment où on ne donne pas suffisamment de travail à nos entreprises, comme je viens de le dire. Mais c'est sur les dépenses, tout simplement, de fonctionnement, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Aujourd'hui, moi, je suis assez fier, même si c'est compliqué, parce que on est tous pareils, hein, on dit il faut faire des économies, mais quand on en fait, ça touche toujours quelqu'un. Mais les 150 000 emplois de fonctionnaires en moins en 5 ans, c'est à terme une économie importante du budget de fonctionnement qui revient chaque année. Cela veut dire que si on veut maîtriser nos dépenses publiques et atteindre l'objectif de 3% de déficit, moi je me défie une personne dire qu'il va augmenter le nombre de fonctionnaires, les dépenses d'assurance maladie, doubler le budget de tel ou tel ministère ou encore revenir à la retraite à 60 ans. C'est impossible. Donc soit on augmente les impôts, soit on fait des économies sur le budget de fonctionnement qui revient chaque année. Et c'est ce que nous avons commencé à engager et qu'il faut poursuivre.
Je vais être un peu polémique, mais par exemple, le Sénat, est-ce que c'est pas quelque chose où on pourrait faire des économies substantielles? Est-ce que c'est pas quelque chose qui coûte très cher pour des effets minimes?
Alors, vous me permettrez, en tant que député,
bien sûr,
de pas répondre à cette question, même si j'ai un avis... même si j'ai un avis dessus. Pour faire simple, je pense qu'une deuxième chambre, d'ailleurs dans toutes les démocraties au monde, il y a une deuxième chambre, hein, qui est souvent une chambre des territoires, telle qu'en France. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'autant de sénateurs? Peut-être que, comme aux États-Unis, un nombre de sénateurs identique sur l'ensemble des départements pourrait peut-être suffire. Mais c'est vrai que c'est pas un député de parler du Sénat. Je tenais à le dire quand même, parce qu'il se dit beaucoup de choses. L'Assemblée nationale, depuis 2007, n'a pas augmenté son budget de fonctionnement, va même le diminuer. Ben
c'est très bien, vous êtes un bon élève.
De 16 millions d'euros. Non mais c'est pas uniquement moi, puisque l'Assemblée nationale est gérée par trois questeurs et qui représentent tous les partis. Donc ça veut dire qu'on a fait l'effort. On a même rendu, dans les années 90, la cagnotte qu'on avait. Et ça serait bien peut-être que nos amis sénateurs redonnent une grosse partie de la cagnotte qu'ils ont engrangée ces dernières années, qui représente plus d'un milliard d'euros. Ça serait symbolique.
Jean-François Matray, une question.
Pour en revenir justement au problème qui se pose à l'heure actuelle, on a l'impression, on reste très franco-français, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la crise n'affecte que la France et on fait du comparatif avec les autres pays, mais je pense pas que la crise soit justement cette spécificité. En effet, plutôt que, on parlait tout à l'heure acheter français, des slogans qui sont un petit peu nationalistes, qui sont porteurs momentanément, la difficulté, ça serait plutôt de vendre français ou de vendre, d'avoir un commerce qui nous permet justement de ne pas être tributaire des marchés d'une façon un petit peu caricaturale, alors que comparativement, c'est vrai que l'on retrouve un dynamisme beaucoup plus important dans d'autres pays qui, parfois au niveau de la recherche et au niveau de la technologie, ne sont pas forcément meilleurs que nous. Alors est-ce que vous avez des propositions dans ce domaine? Parce que on a l'impression que c'est une politique de restriction, on nous promet des lendemains qui déchantent, mais ça serait bien quand même qu'il y ait des perspectives d'avenir possibles et non pas des plans de restriction, quelles que soient les modalités d'application.
Alors on va peut-être voir avec Sébastien Poncet ce qu'il en pense.
C'est d'actualité pour moi, je recrute actuellement un commercial pour gérer l'international. Et la difficulté auquel je fais face aujourd'hui, c'est qu'effectivement j'ai un certain nombre de candidats potentiels, mais tous ces candidats me disent « bah finalement, moi, j'ai pas envie de bouger, je suis bien en France, je veux juste m'occuper des clients français parce que travailler à l'international, c'est trop de travail. » Et pourtant, le salaire que je propose est assez convenable, donc beaucoup rêveraient d'avoir. Et là, je ne cherche pas à faire de la politique politicienne. Je pense que les RTT ont donné l'habitude aux gens de ne travailler que 9 mois et demi par an. Et c'est devenu très difficile de trouver des gens qui ont envie de travailler et d'aller se battre sur les marchés internationaux, ce qui effectivement représente une quantité de travail importante, puisque quand vous partez en Asie ou aux États-Unis, vous partez du lundi au samedi. Et donc, vous travaillez toute la semaine, puisque la semaine pendant laquelle vous êtes en déplacement, bah, vous êtes à l'hôtel, vous êtes dédié à votre entreprise. Donc effectivement, c'est un gros problème. Alors aujourd'hui, l'entreprise que je gère est passée de 800 000 euros à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 18 mois. On devrait faire 6 millions l'année prochaine, donc on fait de la croissance. Mais pour faire de la croissance, il faut travailler. Et c'est très difficile de trouver des gens qui veulent travailler en France.
Pierre Brivet, peut-être une question avant de Christian Besson.
Est-ce que pour vous, la France est un vieux pays avec de vieilles habitudes ?
Non, je pense pas que ce soit un vieux pays dans ce sens-là, parce que la France est quand même un pays qui reste dynamique. Quand vous regardez les technologies qui sont développées, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on fait, on a pris des habitudes, ce qui est assez classique dans toute l'histoire de l'humanité. Quand un pays commence à bien vivre et à vivre convenablement blanc et assez confortablement, on se dit « Ah yes, c'est gagné, on n'a plus besoin de travailler ». Et beaucoup de pays ont le même problème, c'est-à-dire qu'à force, quand on commence à s'enrichir, on perd l'habitude de se dire « il faut continuer de travailler pour continuer de se battre ». La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on est dans une guerre économique mondiale en permanence, ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau, et que si nous, on se ralentit et on se bat moins sur les marchés, nos concurrents à l'étranger, eux se battent. Le marché, il est mondial. Si vous allez chercher de la croissance sur les marchés internationaux, vous la trouvez. J'ai commencé à démarcher la Corée en début d'année. On a pris pour 200 ou 300 000 euros de commandes cette année en Corée. L'année prochaine, on devrait être à 600 000.
Pour apporter un élément sur cette question,
c'est Pierre Brivet.
Alors, je suis tout à fait d'accord en disant qu'on est un pays riche, on a des tas d'avantages, etc. Donc, on a plutôt tendance à s'endormir là-dessus. Mais j'ai malheureusement un mauvais exemple qui s'est passé dans mes entreprises quand je suis passé de 39 heures aux 35 heures. C'est-à-dire que les gens, ils bossaient. Et puis, quand on est passé aux 35 heures, il y avait toujours du boulot pour faire 39 heures, voire plus. Et puis dans le bâtiment, il faut être assez souple au niveau des horaires en fonction des chantiers et des saisons. Donc les gens, ils faisaient toujours plus de 35 heures, enfin plus, ou souvent plus de 35 heures. Donc on leur laissait le choix, soit on leur payait en heures supplémentaires, soit ils les prenaient en RTT dans les périodes où il y avait moins de travail. Et pendant un an ou deux, tout le monde nous disait « Vous nous payez en heures supplémentaires, on veut bosser, on veut gagner de l'argent. »
Travaillez plus, gagnez plus, fameux slogan.
Et voilà, travaillez plus et gagnez plus. Donc c'était une aubaine pour eux parce qu'ils étaient payés 35 heures payés 39 et les 4 heures ou les heures qu'ils faisaient en plus, ils étaient payés en plus et en plus à 25%. Donc c'était génial. Et au bout d'un certain temps, un an, deux ans, trois ans, les gens ont dit « Ben non, vous nous payez plus ». On prend des RTT. Donc ce qui veut dire que les gens ont pris la mentalité de ne plus bosser, de faire leur boulot, de bien faire leur boulot, mais de faire les 35 heures et d'avoir leur vie en dehors de l'entreprise. Maintenant, bon, les 35 heures, on les fait en 4 jours, parce qu'il faudrait les faire en 4 jours et demi, mais on préfère les faire en 4 jours à cause des histoires d'organisation de déplacement. Donc les gens ont pris l'habitude d'avoir des week-ends de 3 jours, donc ils préfèrent avoir moins de salaire, moins d'argent, et avoir leur loisir. Et ça, c'est un effet pervers des 35 heures qui fait que les gens, aujourd'hui, ont perdu l'envie de bosser plus et ont perdu l'envie de gagner de l'argent. C'est incroyable, ça. Pour moi, ça a été presque un choc culturel. Et on dit un vieux pays, mais c'est pire que ça. C'est que on se dégrade encore par rapport à une situation de confort qu'on avait déjà.
À ciel ouvert sur RVR, une émission pour faire réagir le citoyen. Jean-François Matray, des commentaires sur ce qui vient d'être dit jusqu'alors ?
On a l'impression, si on tient compte des propos tenus, que finalement l'origine de la crise se limiterait au problème des 35 heures. On a une perspective apparemment ethnocentrique, il me semble pas que ça soit uniquement ce critère-là qui doit être l'objet de notre réflexion. Et justement, ma question était d'ordre politique, donc je souhaiterais, bien entendu, que par exemple, Patrice Verchère puisse donner des éléments d'appréciation quand on parlait de vendre français. Est-ce que politiquement, on peut mener une action significative à ce propos qui permettrait justement de participer au désentêtement ? Plutôt que de restreindre uniquement le niveau de vie, y a-t-il d'autres opportunités et des politiques adéquates pour y parvenir ?
Écoutez, on constate, et puis M. Poncet en a l'illustration, qu'on a des belles entreprises internationales. Qu'il faut les soutenir. Mais je crois qu'il y a une chose qui a été importante ces dernières années, c'est le crédit impôt recherche. Ce crédit impôt recherche, l'innovation est essentielle pour la, notre compétitivité, pour la compétitivité de notre pays au niveau de l'international. On se rend bien compte que sur la fabrication, atteindre des coûts aussi bas que, qu'en Inde et en Chine, c'est compliqué. Par contre, si on innove, si on fait de la R&D, on voit qu'on est beaucoup plus compétitif, et c'est la raison pour laquelle, depuis des années, on est passé, vous savez, on est passé pour le crédit impôt recherche, je crois, d'environ 500 millions d'euros dans les tout débuts des années 2000. Aujourd'hui, pour 2012, c'est 5,27 milliards, donc on a augmenté le crédit impôt recherche qui va être consacré à la recherche et développement de nos entreprises. Je crois que c'est fondamental si on veut demain être plus compétitif à l'international, permettre à des PME également de pouvoir financer leur recherche et développement par ce biais de crédit d'impôt. On parle souvent de la loi TEPA, il y a aussi une fiscalité qui existe pour déduire son ISF en direction des PME. Je crois que on croit énormément à la capacité de nos entreprises à développer leur marché, mais pour cela, il faut les aider par le crédit impôt recherche. Il faut les aider, et c'était le cas de la réforme de l'ATP en passant par le CET qui favorise notre industrie. Et puis, ça passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la création, à mon avis, d'une contribution sociale et environnementale à nos frontières pour éviter tout dumping social et pour lutter contre le dumping social et environnemental des pays émergents.
Donc, Christian Besson.
Pour revenir aux solutions possibles, De Gaulle en parlait déjà, mais le fait, par exemple, d'intéresser les salariés aux bénéfices, est-ce que ça serait une piste à promouvoir?
J'allais dire, c'est ce qui est déjà en place. Alors, faut-il probablement l'améliorer. Mais moi, j'ai des entreprises sur ma commune à Cours-la-Ville qui le pratiquent depuis bien longtemps, notamment une.
Mais ça l'est pas partout. Moi, je connais quelques entreprises
Ça l'est pas partout. Mais ça doit faire partie aussi de la négociation. Enfin, je veux dire, on a un souci. On veut tout décider d'en haut. Moi, je crois qu'il faudrait faire confiance aussi aux négociations, parce que ce qui est vrai dans une branche d'activité n'est pas forcément vrai dans l'autre. Et il faudrait que les partenaires sociaux soient plus réactifs et beaucoup plus constructifs qu'ils ne le sont pas aujourd'hui.
Et vous pensez qu'un intéressement même minimal aux bénéfices, ça ne peut pas être une mesure prise par l'État? C'est votre point de vue, ça?
C'est le bénéfice net que vous me parlez, là.
Oui, absolument, tout à fait.
Voilà, donc, bon, sommes partis sur la négociation dans le cadre de la prime qu'on a demandé aux entreprises qui faisaient des gros bénéfices de verser. On voit très bien qu'il y a des entreprises, suivant les négociations, ont versé une prime correct et d'autres, bon, seraient plus modestes. Mais moi, il me semble qu'on peut pas généraliser et qu'il appartient, et c'est aussi la force de l'Allemagne, il appartient aux partenaires sociaux de négocier par branche, parce que c'est chaque branche qui a ses particularités, et je crois que les gens connaissent plus leur branche que ça qu'on l'incite, oui.
Nous sommes presque à la fin de l'émission à ciel ouvert. À nos invités de nous donner une vision d'avenir le meilleur possible. Pierre Brivet, pour commencer.
À force d'entendre à la radio que le chômage augmente, qu'on va vers la crise, les gens n'ont plus envie de consommer, n'ont plus envie de dépenser. Et puis il y a aussi le côté réel, on parlait de participation aux dividendes, aux résultats, etc. Moi, dans mes entreprises, je donne des primes qui sont bien au-delà de tout ce qui est réglementaire. Quand on gagne de l'argent, il est un secret pour personne que les résultats de mes entreprises, ou des entreprises en général, les PME, ont quand même baissé, surtout dans le bâtiment ces dernières années. Donc je vais donner des primes cette année qui vont être inférieures à celles de l'année dernière, qui étaient déjà inférieures à celles de l'année d'avant, voire encore inférieures à celles de l'année d'avant. Les augmentations généralisées, donc négociées avec les partenaires sociaux, sont relativement faibles. Les augmentations individuelles seront faibles aussi. Enfin, je parle pour mes entreprises et aussi pour une bonne partie des entreprises, des PME en tout cas françaises. Donc c'est dur de motiver les gens à bosser, à gagner de l'argent et à avoir confiance en l'avenir. Hein. Ça, c'est très difficile. Et il y a un côté psychologique. Maintenant, avec 9% de chômage ou plus, chacun a dans sa famille ou connaît quelqu'un qui est au chômage et a peur et épargne et aide ses enfants et ses petits-enfants. Donc du coup, la consommation baisse et voilà. Et plus personne n'a envie et ça va pas dans le bon sens.
On va vers une crise peut-être plus profonde encore, que l'on ne pense.
Enfin, je ne sais pas. Je dis qu'il faudrait redonner envie aux gens. Il faut redonner envie aux gens de travailler. Il faut redonner envie aux gens de gagner de l'argent. Il faut redonner envie aux gens de dépenser en leur assurant une sécurité de l'avenir. Vous parliez de la sécurité financière et bancaire. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas à douter de cette sécurité aujourd'hui. Donc, les gens, ils vont garder leurs économies, il ne va pas y avoir de soucis. Mais le problème, c'est pas qu'ils thésaurisent, c'est pas qu'ils fassent des économies, c'est qu'ils dépensent leur argent.
Tout à fait.
Donc, je crois que une partie de la solution de la crise, c'est redonner envie aux gens de travailler, de dépenser, etc., etc.
Sébastien Poncet, vous avez, je crois, 37 ans, à peu près l'âge d'ailleurs de Patrice Verchères, donc vous représentez la jeunesse. Votre vision ?
Les crises font partie de la vie économique. De toute façon, les crises sont aussi des purges. Vous en avez eu en 93, vous en avez eu dans les années 70. Moi, je pense que sur le court terme, on va avoir une crise structurelle qui risque de durer 5 à 10 ans, comme ça s'est passé au Japon. Au Canada, dans les années 90, vous avez eu le même phénomène, parce que le Canada a connu la même chose. Ils étaient endettés à plus de 90% de leur PIB, donc ils ont dû faire des réformes de structure relativement importantes. On va sûrement assister à une augmentation forte du chômage dans les 2-3 ans à venir. Des réformes de structure vont être nécessaires. On va devoir tous se serrer la ceinture, mais j'ai relativement confiance dans l'humanité pour pouvoir, et on le voit dans le passé, qu'on trouvera le moyen de rebondir et de recréer l'envie et de repartir de l'avant. Enfin, ça fait partie de la vie économique d'un pays.
Vous avez une vision quand même optimiste finalement.
Sur le long terme. Après, il faut effectivement, il y aura de la casse sociale pendant les 3-5 prochaines années. Oui, ça c'est une certitude.
Pour Patrice Verchères, député.
Moi, je pense la même chose que les deux précédents interlocuteurs qui viennent de dire qu'il faut garder espoir. Que c'est vrai que très souvent l'économie est cyclique, reste à savoir si on est en fin de phase ou on n'a encore peut-être pas atteint, et que cette crise peut être aussi l'occasion de revoir un nouvel ordre mondial au niveau de l'économie. On voit bien que les discussions qui peuvent avoir lieu au niveau du G20, qui a de la part de nos amis américains et chinois, une autre vision. Ils commencent à parler d'une meilleure régulation de la finance au niveau international. Donc, il faut espérer que cette crise engendre demain un nouvel ordre économique mondial. C'est l'espoir qu'on peut mettre. Mais c'est vrai que le fait d'écouter la radio, de voir la télé, de lire la presse, fait qu'on est dans une situation où les gens sont pessimistes, alors qu'il y a aussi plein d'entreprises qui réussissent. Et ça, faut pas oublier qu'il y a des entreprises aussi qui embauchent. On l'entend rarement, mais il y a des entreprises qui embauchent. Et je crois qu'il faut croire en l'avenir, même s'il y a des temps difficiles. En tout cas, nous allons essayer de réduire cet endettement pour préserver l'avenir de notre pays.
Mais Patrice Verchères, qui aujourd'hui peut bien faire régner l'ordre économique en Europe, quand on sait que 5 gouvernements de gauche et 4 de droite ont échoué? Cela m'amène à dire que les chefs de gouvernement ou présidents, de quelle obédience qu'ils soient, sont devenus des marionnettes de la sphère de l'argent. Et j'ajoute, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.
Moi, je ne crois pas du tout. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a le couple franco-allemand qui remarche à plein. On ne peut que s'en réjouir. Ce sont les moteurs de l'Europe. Et moi, j'ai espoir au président de la République et auprès d'Angela Merkel également pour trouver des solutions. Je crois qu'on aura un certain nombre de réponses. D'ailleurs, je constate que depuis la réunion de lundi, les marchés ont plutôt été satisfaits des annonces qui ont été faites, avec plus de solidarité au niveau européen, mais aussi plus de rigueur au niveau européen, notamment sur les budgets, afin que chacun joue la règle du jeu et joue les traités qu'il a signés, parce que pendant trop longtemps, on s'est tous assis sur les traités qu'on avait signés, notamment celui de Maastricht qui interdisait au pays d'avoir plus de 3% de déficit. Donc il faut jouer le jeu de la solidarité, mais il peut jouer uniquement que s'il y a une rigueur partagée sur le fonctionnement des États respectifs de la zone euro.
Donc on a besoin de vrais gendarmes, si je vous entends bien. On manque de gendarmes finalement.
Tout à fait. Donc d'où la nécessité de voter la règle d'or, que la Cour de justice européenne voit ce nouveau traité s'il a été s'il a été transposé en droit, et ensuite il appartiendra au Cour suprême, pour nous le Conseil constitutionnel, à chaque budget de le valider ou pas suivant si il est conforme au traité que la France a signé. Ça sera le cas également pour l'Allemagne.
Avant que Jean-François Mattrey fasse une conclusion de cette émission à ciel ouvert, j'accorde 25 secondes à Pierre Brivet et Sébastien Poncet. Pierre, un petit mot de conclusion.
Un mot, pas grand-chose à ajouter, sauf qu'il faut garder espoir et qu'il faut bosser et qu'il faut être optimiste. Voilà.
Sébastien Poncet.
Moi, j'aurais le même commentaire. Enfin, l'entreprise que je gère actuellement se développe très bien. On embauche. Hein. J'ai embauché 3 personnes en moins en quelques mois. Il faut se battre, il faut se retrousser les manches. Il faut surtout aller chercher la croissance, là où il y a de la croissance. Et aujourd'hui, elle se trouve en Asie. Il ne faut pas avoir de complexe, mais il faut effectivement beaucoup travailler, beaucoup se battre.
Et c'est l'heure de la conclusion de cette émission à ciel ouvert. Une conclusion philosophique par Jean-François Matray.
Nous allons conclure, mais je vais rappeler ma comparaison avec La Fontaine, non pas simplement pour un plaisir littéraire, mais pour peut-être établir une analogie peut-être intéressante. Dans la fameuse fable que je citais tout à l'heure, Les animaux malades de la peste, on cherchait l'origine qui était l'origine de la peste, justement, qui s'était abattue sur la population, sur le peuple des animaux. Et comme dans la logique de l'Antiquité, on laissait entendre que si la peste s'abattait sur le peuple, quel qu'il soit, c'était sans doute d'origine divine, et si c'était la colère des dieux qui s'était abattue en quelque sorte sur le peuple, et il fallait trouver un responsable justement ayant provoqué la colère. Alors, on a eu l'impression à travers l'émission que l'on a cherché plutôt des causes au problème, plutôt que des solutions, même, où les solutions, on les a plutôt évoquées en termes de vœux pieux. Alors, bien entendu, peut-être parce qu'on peut guère faire autrement, mais enfin, c'est un constat. Alors, pour en revenir à cette fameuse fable, je rappelle que, lors de la réunion exceptionnelle du roi Lion, celui-ci incite chaque intervenant à faire part de ses fautes éventuelles qui seraient à l'origine du mal qui sème la terreur dans la population animale. Alors chacun y va de son aveu. Le lion laisse entendre qu'il a mangé quelques brebis. Le loup, bon, le disculpe en disant bon, finalement c'était pas si grave que ça. Même en mangeant le berger, c'était pas trop grave. Les autres notables, le loup et l'ours en font de même. Et puis arrive le dernier intervenant, à savoir l'âne, qui avoue, alors franchement, qu'il a tendu un petit peu la tête du côté du pré du voisin et qu'il a commis une grosse faute puisqu'il a brouté de l'herbe alors là où il ne devait pas le faire. Et finalement, tout le monde, vous connaissez la formule, un haro sur le baudet, c'est lui responsable. Donc on a l'impression, en termes de responsabilité, que peut-être qu'on cherche des responsables, le peuple, les gens qui finalement ont vécu au-dessus de leurs moyens, etc., mais que on ne pose pas véritablement le problème en termes de responsabilité politique, c'est-à-dire que finalement, en termes de décisions à prendre, qui soient sans doute rigoureuses, mais qui doivent correspondre à quelque chose de satisfaisant et pas simplement promettre des lendemains qui déchantent. Bon, nous allons terminer là-dessus. Notre émission sur la rigueur, j'espère, aura été globalement rigoureuse, même si on n'a pas de solution miracle, hein. Bon, on le prévoyait peut-être un peu. Et j'espère que nos auditeurs nous écouteront à la rigueur pour la prochaine émission.
Je remercie nos invités, Patrice Verchère, député, Pierre Brivet, chef d'entreprise, Sébastien Poncet, directeur d'une entité commerciale dans la chimie, et l'équipe, Bastien Ouvert, Jean-François Matray, Jean-Luc Regret, Christian Besson. Prochaine émission à ciel ouvert sur RBR le 25 janvier 2012. Bonne fin d'année à tous, on se dit à l'année prochaine.